Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre ONU Info Genève. Alexandre Carrette pour vous présenter votre journal d'information sur l'actualité de la semaine au sein de la Genève internationale. Dans cette édition, nous évoquerons la présentation très attendue du rapport de la rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires devant le Conseil des droits de l'homme. Toujours au Conseil des droits de l'homme, un expert des Nations Unies explique qu'éradiquer la pauvreté pour 2030 est un rêve qui s'éloigne. Nous écouterons un membre de la commission d'enquête sur la Syrie qui estime que des probables crimes de guerre et crimes contre l'humanité ont été commis dans ce pays. Notre invité de la semaine est Fode Simaga d'ONU SIDA. Nous reviendrons avec lui sur l'impact de la Covid-19 dans la lutte contre le sida. L'organisation craint un recul de 10 ans dans les progrès accomplis dans ce domaine en raison de la pandémie. Le Conseil des droits de l'homme poursuit sa 44e session au Palais des Nations à Genève. Cette semaine, il a débattu notamment des conséquences des changements climatiques sur les personnes handicapées, des violences contre les femmes journalistes ou encore des migrants. Moment attendu, c'était la présentation jeudi du rapport d'Agnès Callamard, la rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, a présenté ses conclusions sur l'utilisation des drones programmés pour tuer des personnes. Elle a regretté que les conséquences de ces assassinats ciblés soient négligées par les États et les institutions.
Il n'existe aucune norme solide qui régisse le développement des drones, leur prolifération, leur exportation, leur capacité ou leur recours à la force. Aucune transparence, aucune reddition de comptes, aucune supervision effective, niveau national ou international. Les frappes par drone sont préférées par les hommes politiques et les militaires parce qu'ils sont réputés plus effectifs, efficaces, adaptables, acceptables, plus faciles à nier et à cause du gain politique ou alors de l'absence de coût politique. L'absence de supervision effective veut dire que dans la pratique, il est impossible de savoir si une personne qui est morte à cause d'une frappe par drone était effectivement ou non une cible licite au titre du droit international.
Agnès Callamard a également indiqué que le meurtre ciblé du général iranien Qassem Soleimani par un drone était une violation de la Charte des Nations Unies et qu'il s'agissait d'un assassinat arbitraire dont les États-Unis sont responsables en vertu du droit international. Autre rapport important présenté devant le Conseil des droits de l'homme, celui du nouveau rapporteur spécial sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme. Olivier de Schutter a indiqué que la pandémie de Covid-19 menace de famine 250 millions de personnes supplémentaires et douche les espoirs d'éradiquer la pauvreté pour 2030. Il a également remis en cause les chiffres officiels, indiquant une baisse de la pauvreté entre 1990 et 2015.
Si on ne tient pas compte des chiffres relatifs à la Chine, le nombre de personnes vivant en deçà du seuil de pauvreté, qui correspond à 2,50 $ par jour, a à peine changé pendant la période et aurait même augmenté de 140 millions de personnes en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient.
La commission d'enquête des Nations Unies sur la Syrie indique que des crimes de guerre auraient pu être commis par toutes les parties au conflit. Son dernier rapport, publié cette semaine, reprend des informations sur les attaques aériennes et terrestres menées par les forces gouvernementales syriennes et les forces aériennes russes l'année dernière dans la région d'Idlib contre des infrastructures civiles. Annie Megali, membre de la commission d'enquête, est au micro de Daniel Johnson.
Nous avons constaté que des crimes de guerre étaient susceptibles d'avoir été commis à la fois par l'armée de l'air syrienne et par l'armée de l'air russe. Nous avons conclu que des attaques par les forces pro-gouvernementales étaient systématiques et visaient à forcer la population à se déplacer. Un tel déplacement de population constituerait un crime contre l'humanité. Donc, encore une fois, nous estimons que ça a peut-être été le cas et que tant les forces pro-gouvernementales, les groupes armés que les organisations terroristes y ont pris part. Nous avons aussi été témoins de destruction et de pillage qui constituent également des crimes de guerre.
La Covid-19 a des conséquences dramatiques dans de multiples domaines et la lutte contre le sida n'est pas épargnée. D'après ONU SIDA, qui a son siège ici à Genève, ce sont 10 ans de progrès qui pourraient être perdus en raison de la pandémie. L'organisation qui vise à mettre fin au VIH dans le monde présentait son rapport annuel cette semaine. On y revient avec notre invité de la semaine. Il s'agit de Fode Simaga, directeur du département accélération de la réponse au VIH. Fode Simaga, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous, bonjour.
Pourquoi la Covid-19 pourrait faire reculer de 10 ans les progrès dans le domaine de la lutte contre le VIH ?
Nous avons fait une modélisation, à savoir que s'il y avait, à cause de la Covid-19, une interruption totale des services, totale je dis bien, donc les gens n'ont plus accès à leur traitement antirétroviraux, on pourrait avoir 500 000 morts supplémentaires, ce qui, cumulé au nombre de morts malheureusement observées et mesurées cette année, nous ramènerait au niveau de 2008. La première raison, c'est que les populations les plus affectées par le VIH sont des populations aussi les plus marginalisées, que nous appelons populations clés. Les professionnels du sexe, les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, les prisonniers, les transgenres, les personnes injectées de drogue, c'est les populations les plus vulnérables. Et ces populations les plus vulnérables au VIH sont aussi les plus vulnérables au Covid, non pas d'un point de vue immunitaire ou biologique, mais d'un point de vue social, si vous voulez. Donc il y a premièrement une raison sociologique, je dirais. Deuxièmement, il y a une raison logistique, c'est-à-dire que la majorité des médicaments génériques sont produits en Inde, et avec le confinement mondial général, il faut bien que les médicaments arrivent dans les pays, en particulier en Afrique, puis dans les pays, soient distribués. Donc vous comprenez bien qu'en ce moment, tout ça prend du retard.
Docteur Fodessimaga, vous indiquez dans votre rapport annuel que des vies d'enfants auraient pu être sauvées s'il y avait eu plus de moyens dans la lutte contre le VIH. Pourquoi ?
On a eu quand même cette année 95 000 enfants qui ont succombé aux maladies opportunistes du fait du VIH. Et la couverture, on constate aussi que la couverture du traitement, c'est-à-dire le nombre d'enfants qui ont du traitement, est beaucoup plus faible que le nombre d'adultes qui ont un traitement. Or, on pourrait se dire qu'à partir du moment où les adultes ont des traitements, probablement leurs enfants devraient avoir accès au traitement. Ça, c'est une piste à explorer et qu'on veut faire. Il y a aujourd'hui 950 000 enfants qui reçoivent un traitement, alors que la cible qu'on s'était fixée, c'est-à-dire les Nations Unies, mais aussi tous les États membres ensemble, était de 1,6 million cette année. Donc vous voyez, il y a un manque à gagner qui est très important. Et ça, c'est surtout dans les gros pays où il y a beaucoup d'épidémies, l'Afrique du Sud et le Nigeria, par exemple.
On a le sentiment que le sida est un peu oublié au sein de la population, en tout cas en Europe. Alors pourtant, le virus est toujours bien présent. Quelle est la situation dans le monde aujourd'hui ?
C'est toujours un sujet d'actualité avec des grandes disparités régionales et des grands facteurs régionaux. Ce n'est pas du tout la même chose, le même niveau et les mêmes populations qui sont atteintes en Europe de l'Est versus l'Afrique de l'Ouest et du Centre, versus l'Afrique australe et de l'Est, versus l'Amérique latine et évidemment l'Europe où là c'est essentiellement les hommes ayant des sexes avec des hommes qui, à 90%, sont les moteurs de l'épidémie, ce qui n'est pas le cas dans d'autres parties du monde.
Vous venez d'indiquer qu'il y avait eu du retard dans la prévention de nouvelles infections. Est-ce que l'objectif d'éradiquer le VIH définitivement pour 2030, est-ce que c'est un vœu pieux ?
Non, ce n'est pas un vœu pieux. C'est faisable, c'est atteignable. Avec toute l'expérience que le monde a, on sait ce qu'il faut faire. On sait, par exemple, ce qu'il faut faire en matière de prévention. C'est diversifier les approches et les programmes, ce qu'on appelle la prévention combinée, ça marche. Et on a beaucoup de pays où on a la preuve que ça marche. Donc oui, c'est toujours possible. On n'a pas atteint les objectifs de 2020, on n'en est pas très loin. Du coup, on sonne l'alarme pour dire « Hey, ressaisissons-nous collectivement, allons de l'avant, on sait ce qu'il faut faire, c'est une question de volonté politique. » Ça reste une des plus belles batailles que le monde moderne pourrait se glorifier d'avoir gagné. Il ne faut pas baisser les bras, on sait ce qu'il faut faire, c'est juste une question de volonté et d'engagement pour y arriver.
Docteur Fodessimaga, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur par intérim du département accélération de la réponse au VIH. À très bientôt.
À très bientôt et merci à vous.
Et c'est la fin de ce journal. L'actualité des Nations Unies à Genève continue sur le site web ungeneva.org et sur ONU Genève, le compte Twitter en français des Nations Unies à Genève. À la semaine prochaine.